Midi 13h, Dessus de Table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM.
Dessus de Table, l'émission qui met les pieds dans le plat. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver, bon appétit si vous êtes à table. Manuel Mariani est avec nous. Bonjour Manu, comment ça va?
Bonjour Philippe, ça va très bien et vous?
Très bien, ravi de vous revoir dans votre bleu de travail. C'est simple, le samedi.
Très charmant.
Alors charmant, il y a un faillot là dans le...
Non, il y a un faillot là. Ça me rappelle le bleu dans Bruce Lee.
C'est ça.
Voilà.
Oh, ça date, ça.
Ça date, hein.
Ah ouais.
Aujourd'hui, dans Dessus de Table, comment faire des tables, apparemment.
C'est ça.
Comment faire sa table en contreplaqué.
C'est un peu ça, tu trouves pas?
Mais grave.
Toi qui as du goût.
Moi qui ai du goût, j'ai dit, non, mais elle est très jolie. Elle est très sympa.
Il faut dire que la personne qui me dit ça, elle est quand même en total look Pattaya jogging.
Ah ouais, c'est vrai, je suis habillé. Ouais, c'est vrai, j'avoue.
Mais tu sais quoi? Tu sais combien il l'a payé? Parce qu'il le dit pas.
Ah, il l'a payé cher.
Non, mais non, combien il l'a payé?
12 balles.
Euros. Ça lui va bien.
Il ressemble à mon ancien professeur de techno.
Mais c'est revenu à la mode. Moi, je cherche une salopette de travailleurs comme bleu, dans la même couleur.
J'ai les fournisseurs.
C'est vrai? Je veux bien.
À 13.
Ouais, ça m'intéresse fortement.
À 13, on peut trouver ça. Bien. C'était l'instant mode par Manuel Mariani.
C'est ça. C'était la rubrique Fashion Police.
Bon, c'est la rentrée, Manu. Quelles sont les tendances? Parce qu'on ne va pas vous parler des tendances mode, Manu, mais vous, les tendances foot de la rentrée.
Bah, les tendances foot de la rentrée, c'est acheter malin. Les gens sont vraiment horrifiés par les prix qui augmentent. Les gens font de l'anti-gaspi de plus en plus. Et aujourd'hui, avec nos invités, un boulanger, un boucher et une marchande de 4 saisons, on va essayer de comprendre pourquoi ces prix augmentent. Et puis, savoir comment on peut acheter malin, gâcher moins, et puis acheter moins, mais mieux.
Il faut essayer de comprendre, parce qu'entre les rumeurs qui circulent, on dit, mais de toute façon, finalement, on ne comprend pas la réalité de ces augmentations, parce que c'est dû à de la spéculation. Ou alors, est-ce qu'il y a une vraie réalité? Mais là, les Français ne voient plus très bien le lien qu'il y a, par exemple, avec, on va prendre un produit emblématique qu'on ne trouve plus aujourd'hui, c'est la moutarde. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, il n'y a plus de moutarde et que quand elle est disponible, ça coûte un bras, par exemple?
Oui, alors là, le souci, c'est au niveau... Alors, il y a de la moutarde, il y a des stocks de moutarde, mais simplement, avec le réchauffement climatique, il y a des récoltes qui ne sont plus celles qu'elles étaient. Donc, on est obligé de se tourner vers des fournisseurs qui ne sont pas forcément au même prix. Donc,
Il y a des marques qu'on ne trouve plus. On ne trouve plus de moutarde Amora, on ne trouve plus de moutarde Maille. Tu veux dire que les plus gros producteurs, enfin en tout cas, ceux qu'on voyait le plus dans les rayons avant, ils n'ont plus du tout de stock.
Alors, c'est pas ça. C'est qu'il y a aussi un effet, comment dire... On le sait, hein, dès qu'il y a un truc, les Français se mettent à stocker. Et du coup, il y a un peu moins de matières premières, donc la production, il y a moins de production d'avance, mais les gens achètent plus. Donc forcément, ça crée une pénurie et ça crée aussi un effet de raréfaction qui fait que les prix, non seulement il y en a moins, mais en plus les prix augmentent.
J'ai pas vu un pot de moutarde depuis au moins 4 mois.
Ah oui, mais je vous amènerai un pot de moutarde, Philippe.
C'est vrai?
Oui.
Vous êtes en train de nous dire que vous pouvez vous trouver de la moutarde, normalement.
Oui, mais ce n'est pas de la moutarde Amora. C'est des moutardes un peu gourmets.
Oui, voilà. Moi, je te parle de la moutarde Amora. T'arrives à trouver de la moutarde?
Celle dans le verre où il y avait des dessins autour, là. Tu sais, avec
avant.
Ouais, ça, c'est en rupture.
C'est en rupture,
ouais,
ça?
Oui, non, c'est compliqué en ce moment.
Mais pourquoi?
Dès qu'il y en a en rayon dans un hypermarché, en 20 minutes, il n'y a plus rien.
C'est simple, il y a une surconsommation, donc dès qu'on va trouver son pot de moutarde, on en parle de 4 ou 5, et ben voilà, ça laisse moins de place pour les autres clients.
Alors, j'ai pas encore présenté nos invités, là c'est Samy qui vous parle, hein, Samy de la Maison du Boucher, le boucher 2.0, mais bientôt avec un point de vente physique, on va vous en parler dans l'émission.
On en parlera tout à l'heure.
Voilà, on aura aussi tout à l'heure, en dernière partie d'émission, Mina du Verger de Vincennes pour parler des fruits et légumes, et puis... un invité de choix dans le deuxième plateau, en deuxième partie d'émission, puisqu'on aura Jean-Luc Pougeran par téléphone, qui est le boulanger...
Un des rois des boulangers, parisiens.
Ouais. Boulanger bio au levain, c'est le boulanger qui fournit les stars, les têtes couronnées et les restaurants étoilés.
Il vient récupérer sa veste.
C'est ça. Mais il porte des vestes de travail aussi, Jean-Luc.
C'est pas bien, Tarek. Bon, on s'est moqué une fois, ça a été douloureux.
Plaisante.
C'était douloureux pour Manu. On a bien
Manu
vu.
Manu me connaît, il sait que je taquine.
C'est ce qu'on appelle le comique de répétition.
Exactement.
C'est ça qui est drôle. Bon, est-ce que les Français font plus attention quand ils font leurs courses aujourd'hui, ou alors ils achètent la même chose et acceptent de payer plus cher?
Alors, il y a beaucoup d'études qui sortent là en ce moment, notamment une étude Opinionway qui a été commandée par United, qui est le leader européen du crédit instantané. Parce que malheureusement, les gens font de plus en plus appel à des microcrédits comme ça, avec accord instantané pour pouvoir boucler les fins de mois. Alors, comment est-ce que les Français perçoivent et vivent cette inflation? Déjà, 9 Français sur 10, donc c'est énorme, hein, 90%, se disent impactés par la hausse des prix. Hein, donc, c'est pas seulement sur les gens qui ont des revenus faibles. Et 86% estiment que cette inflation va être durable, en particulier pour les dépenses contraintes. Qu'est-ce que les dépenses contraintes? C'est les dépenses auxquelles on ne peut pas couper, comme l'électricité, l'alimentation, le loyer, etc. Et justement, d'où cette émission aujourd'hui, c'est que leurs craintes se focalisent en priorité sur la hausse des prix des denrées alimentaires pour 89% des gens sondés. 88% pour l'augmentation des prix de l'énergie. Bon, même s'il y a un bouclier tarifaire jusqu'à la fin de l'année, mais après la fin de l'année, que va-t-il se passer? Pour les déplacements, tout ce qui est déplacement, 83%. Et puis, les assurances aussi, bizarrement, 80%. Les gens ont peur que les assurances explosent. Donc, il n'y a que 16% des Français qui font confiance au gouvernement pour régler le problème après la fin du bouclier tarifaire. Donc, les Français sont assez pessimiste, et 64% des Français, c'est-à-dire deux tiers, ont déjà modifié leurs habitudes d'achat, notamment pour les courses alimentaires, 46%, l'énergie c'est 40%, et les 24-35 ans, c'est ceux qui ont le plus adapté leurs dépenses, notamment les courses alimentaires, pour 69% d'entre eux. Donc on voit effectivement que les Français sont assez pessimistes, parce qu'ils voient effectivement que leur panier au supermarché, il a assez largement augmenté.
Tariq, tu fais des efforts, toi,
quand
tu fais tes courses, là, maintenant, oui. Est-ce que tu
Non, franchement, j'achète vraiment. Je me prends pas à la tête. Hein. Franchement, je te dis la vérité, j'essaie de. Je reste sur ce que j'achète d'habitude.
T'as pas changé tes habitudes?
Si, non, j'achète toujours bio en fait maintenant. J'achète que du bio. J'achète plus de choses transformées ou de choses.
Mina arrive tout à l'heure.
J'achète que
tu pourras
bio.
Faire tes courses.
Mes légumes, même mes épices, tout bio maintenant. Le pain, même ce matin, le pain bio, tout. Voilà. Mais je sens la différence dans le panier, le prix.
Non, c'est ça. Est-ce que tu vois qu'il y a finalement.
Ah oui, il y a une grosse différence. Ah oui, il y a vraiment 30 à 40 euros de plus que d'habitude. Hein.
Et son prochain spectacle s'intitulera Stand Bio.
Stand Bio, exactement. Non, mais tout sera bio. Tout sera bio. Je suis en train de me lancer là-dedans. Mais depuis longtemps déjà. Mais là, c'est vraiment 100%.
Bon, alors, Manu.
Alors, le gaspillage aussi, si vous voulez, Philippe, parce que justement, oui. les Français adaptent leurs habitudes d'achat, mais aussi leurs habitudes de consommation, parce qu'il faut savoir qu'en moyenne, l'équivalent de 67 euros d'aliments frais, enfin d'aliments consommables, finissent à la poubelle chaque mois. Et donc les Français font de plus en plus attention au gaspillage. Hein. Le budget alimentaire moyen chez les Français, c'est 81 euros par semaine.
Par personne ?
Non, c'est pour un ménage de deux personnes.
D'accord.
Voilà.
Donc ça fait 320 euros par mois.
320 euros
pour
par
deux
mois,
personnes pour deux personnes sur un mois.
Oui, mais ce qui est pas rien, hein, Philippe, hein, pour des gens qui sont au SMIC, c'est pas évident. 34% des Français tous les mois dépassent leurs moyens, c'est-à-dire vivent au-dessus de leurs moyens en termes d'achat alimentaire. C'est-à-dire pour pouvoir faire leurs courses, ils sont obligés de piocher dans le plan d'épargne du logement ou de faire appel au crédit ou au découvert. Et pour un Français sur quatre, entre 26 et 50%, ça c'est énorme, des produits qu'ils achètent finissent à la poubelle. Voilà. Et bon, ça vient aussi souvent des achats imprévus et compulsifs, qui représentent pour 45% des Français une somme qui varie entre 13 et 35 euros de leur budget alimentaire mensuel. Donc c'est là-dessus déjà que les Français vont commencer à rogner. Et 35% des Français jettent régulièrement des aliments qui sont encore bons parce que ils n'en ont plus besoin. Et un Français sur deux jette régulièrement des produits périmés sans les avoir consommés. Voilà, donc tout ça, ça va se transformer petit à petit, puisqu'on le voit avec l'autre étude que je viens de citer, celle d'Opinionway, les Français commencent à réagir et à se soucier vraiment de leur pouvoir d'achat au niveau alimentaire et du gaspillage.
Alors, il y a un an, moi je me rappelle très bien, c'était le retour de l'été de l'année dernière, j'avais vu 2-3 bouchers qui m'ont expliqué techniquement ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un an, il me disait, tu sais ce qui va se passer l'année prochaine. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de surprise, finalement. Dans la boucherie, vous aviez une idée de ce qui allait se passer, Samy ?
Tout à fait. Après, il y a...
Il y a un an.
Il y a un an. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait 10 ans que le cheptel français est en train de diminuer. Ça fait 10 ans qu'il y a des départs en retraite et une ferme sur 3 n'est pas récupérée. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Donc, à un moment donné, forcément, il n'y aura pas assez de producteurs. Donc, qui dit pas assez de producteurs, entre l'offre et la demande, donc les prix vont augmenter. Ça, c'était déjà à spéculer. Ensuite, vous avez les événements climatiques qui permet aujourd'hui, quand un éleveur fait du bovin ou de l'ovin, il fait de l'agriculture et ensuite, avec ces produits-là, il nourrit ses bêtes. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'éleveurs qui arrêtent l'élevage et qui s'occupent uniquement de faire que de l'agriculture parce que ça devient beaucoup plus rentable qu'auparavant. Donc tous ces phénomènes-là mis bout à bout, aujourd'hui c'est pour ça que la viande est extrêmement chère.
Et plus rare. Ouais.
Et il y a un autre phénomène aussi, Philippe, c'est pour ça qu'il y a un an déjà, les éleveurs et les bouchers prévoyaient la hausse. C'est que, alors pas seulement à cause de la guerre en Ukraine. Hein.
Non, mais il n'y avait pas de guerre en Ukraine. C'est pour ça que je dis, il y a un an.
Le prix des céréales, des fourrages, des légumineuses avait commencé déjà à augmenter. Et si vous voulez, comme c'est pas des produits qui sont consommés, qui sont récoltés le jour A et qu'on donne au bétail le jour B, c'est des produits qui sont stockés d'avance. À partir du moment où il y a un an, ça augmentait, les éleveurs, les bouchers savaient pertinemment que aujourd'hui, les prix allaient augmenter parce que il faut bien nourrir les bêtes. Et à partir du moment où on sait que les stocks qu'on fait pour l'année d'après coûtent 30, 40, jusqu'à 65% plus cher. Alors, c'est un prix qui contraint aussi vraiment toute la filière, parce que la filière ne peut pas se permettre d'augmenter les prix de 65% du jour au lendemain. Mmh. Et du coup, tout le monde, à part la grande distribution peut-être, mais tout le monde serre les boulons, serre les prix. Il y a une forme de solidarité. J'en parlais avec quelqu'un d'Interbev, qui est l'interprofessionnel de la boucherie et de la viande. Il y a vraiment une solidarité dans toute la filière, que ce soit les producteurs de céréales, de fourrage, etc. Que ce soit les bouchers, les grossistes, les éleveurs. Tout le monde rogne un peu sur ses marges pour ne pas avoir à augmenter ses tarifs de manière insensée.
Un argument qu'on entend, c'est l'industrie et le lobby de la viande de substitution. Il y a un lobby de la viande de substitution qui, depuis des années, travaille pour faire de la viande de synthèse, on va dire. Mmh. Et donc, eux, ils sont très actifs. Ils ont déjà commencé leur campagne de désinformation sur la viande, c'est mauvais sur la planète, enfin tout ça. Ouais. Si. Regardez, il y a juste un élément de langage qu'on retrouve partout. Hein. C'est moi je mange moins de viande, mais j'en mange mieux. Vous savez, tout le monde se met à dire ça. Donc ces gens-là, est-ce qu'ils ont aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont responsables de ce qui se passe ou rien du tout ? Rien à voir ?
Alors, deux choses. Responsable de ce qui se passe, je sais pas. Ce qu'il faut savoir, c'est vrai qu'il y a une vraie tendance et aujourd'hui, on va plus choisir un produit de qualité avec une vraie traçabilité que de manger du quantitatif. Donc, c'est clair qu'on réduit notre consommation de viande pour avoir une viande de meilleure qualité. Après, tout ce qui va être...
Moins mais mieux, oui.
Ouais, moins mais mieux. Après, petit peut-être trompe-œil, faut voir tous les... sur la viande de substitution, tous les arômes ajoutés, tout ce qui vont être mis en place.
Mais ces gens-là, ils sont actifs. là ceux qui font des hamburgers synthétiques,
c'est tendance, c'est militant, c'est tendance. Ils vont vous parler du bien-être animal, ils vont vous parler de plein de choses pour arriver à introduire toute leur viande de substitution. Donc voilà, c'est un jeu et c'est vrai qu'il y a un lobby qui se fait là-dessus.
Mais
voilà.
Est-ce qu'ils sont pas en train de remplacer la viande, c'est ça ?
Non, on pourra jamais remplacer la viande.
Ce lobby qui accuse les mangeurs de viande d'entretenir ces cheptels de vaches qui pètent du méthane et qui font des trous dans la couche d'ozone, on pourrait les accuser de manger les bonnes plantes qui font de la chlorophylle pour l'oxygène.
Voilà, tendance à la baisse, quand je dis tendance à la baisse, c'est à la baisse dans les budgets. Aujourd'hui, on parle des tendances de ce foot de la rentrée, dessus de table jusqu'à 13h sur Beurre FM.
Dessus de table revient dans un instant. Midi 13h, dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM.
Voilà, Emmanuel, ce sont les tendances foot de la rentrée dans dessus de table jusqu'à 13h aujourd'hui.
Absolument. Absolument, les Français s'inquiètent. Tout augmente, la viande, les fruits, les légumes. Et puis aussi le pain, parce qu'on va parler un petit peu de boulange maintenant, Philippe. Alors c'est vrai que la guerre en Ukraine fait que, il faut savoir que les greniers à blé de l'Europe, ils sont un petit peu en Russie, un petit peu en Ukraine, même beaucoup. Et c'est vrai que du coup, ça impacte pas mal les prix du blé et donc du pain. Alors ça n'impacte pas les farines vertueuses, hein, les farines bio les farines anciennes. D'ailleurs, c'est le type de farine qu'utilise notre invité Jean-Luc Poujoran. Bonjour Jean-Luc.
Mais bonjour toute l'équipe de Beurre FM.
Comment ça va ? Alors Jean-Luc, je te remercie vraiment d'être avec nous par téléphone parce que là tu es en plein marché.
Exactement, petit marché de Val d'Oise à Hermont.
Voilà, alors
vous remarquerez tous que Manuel Mariani tutoie le boulanger des stars. Hein.
Oui, c'est vrai.
Tarek, tu as vu, il tutoie Jean-Luc Poujoran.
Il le tutoie, moi je l'ai vouvoyé au standard, lui il l'a tutoyé.
Non, mais et facile, t'as vu comment il a fait ça ?
Ouais. Bah, moi je tutoie tous mes clients sur le marché.
Voilà, et moi je suis comme Jean-Luc et je tutoie les stars de la boulange. Donc,
ouais, dans notre métier, on est dans un tel métier d'échange que les gens sont très cool.
C'est sûr, c'est sûr. On fait partie de la même famille, la famille du bon et du beau. Voilà. Alors, Jean-Luc, déjà toi qui ne fournis normalement que des restaurants, hein, 350 restaurants, entre 300 et 350, et quelques stars du grand, du petit écran ou quelques privilégiés. Qu'est-ce que tu fais sur un marché ? Parce que ça, apparemment, ça devient du confinement.
La même chose que pour toutes les stars, on leur apporte des bonnes choses, du bon pain et des belles choses, parce que évidemment pendant la période Covid, ça a été un petit peu compliqué.
Bah oui, tu ne travailles qu'avec des restaurants et les restaurants étaient fermés.
Donc j'ai mis mon équipe au chômage partiel et je voulais quand même que mes enfants travaillent un petit peu pendant ce temps parce qu'on savait pas, on connaissait pas trop la durée de la maladie. Et donc, on s'est retrouvé sur ce marché à Hermont, où on est là tous les samedis.
Avec tes deux fils ?
Voilà, avec mes deux fils. Et donc, on a tissé une clientèle de gens qui aiment les bonnes choses. Et ça fait vraiment très plaisir.
Ah, c'était pas une nouveauté pour toi, parce que pendant 27 ans, tu avais une boulangerie dur, hein, ouverte au public. Hein.
Une petite boutique de 16 mètres carrés dans le 7e.
Oui, 16 mètres carrés, mais il y avait la queue, hein.
Ouais, il y avait un peu de monde, ouais, c'est vrai, ça débitait pas mal.
Voilà, combien de pain par jour ? Parce que quand on livre 350 restaurants, c'est combien de kilos, de centaines de kilos de pain par jour, hein ?
Ah oui, on fait à peu près 2000 kilos par jour.
2 tonnes par jour, c'est énorme. Alors, exclusivement du pain bio et au levain.
Chez nous, c'est pas bio, c'est 100% levain.
Oui.
C'est écrasé meule de pierre, des farines de blé produites en Île-de-France.
D'accord, donc Locavor.
Voilà, le même moulin, le dernier petit moulin à meule de pierre qui est à Précy-sur-Marne.
D'accord.
Qui est mon fournisseur depuis 47 ans.
Ça nous rajeunit pas, Jean-Luc.
Ça nous rajeunit pas.
Parce que vous avez démarré votre carrière en 75.
Oui, oui. Bah oui, non.
76.
Oui, parce que Jean-Luc a commencé la boulange avec son père.
J'ai commencé avec mon papa dans les Landes, dans le sud-ouest, puisque nous sommes de Mont-de-Marsan, chef-lieu des Landes. Et j'ai appris la boulangerie de base, la vraie boulangerie, avec des fermentations au levain, dans des conditions qui n'existent plus aujourd'hui, qui étaient... On fabriquait le pain la nuit, on le livrait avec la deux chevaux pour Gonette, on livrait les fermes autour. Voilà, c'était une époque...
Et ce sont des processus longs, parce que entre le moment où tu mets la farine dans le pétrin et le moment où tu sors le pain du four, il se passe combien de temps?
En moyenne, entre 24 et 48 heures.
Voilà, parce qu'il y a des fermentations qui sont assez longues pour que le levain puisse s'exprimer,
oui,
on va dire.
Voilà, donc c'est jamais très précis. Il n'y a pas de précision terrible sur les durées. C'est suivant
c'est
les températures.
L'œil.
Et comme on travaille sans levure, avec exclusivement du levain naturel, d'ailleurs qui est le levain de mon papa,
ah oui.
On rafraîchit tous les jours depuis 89 ans. 89 ans.
C'est énorme.
C'est celui de mon papa qu'il a utilisé toute sa vie.
C'est un trésor, il est dans le coffre-fort, ton levain ?
On a un petit coffre à levain, oui,
c'est ça.
Réfrigéré.
Alors, on parlait de l'augmentation des prix dans tous les domaines alimentaires. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que le pain augmente sensiblement ? Est-ce que c'est uniquement les problématiques de guerre en Ukraine, ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui impactent le prix du pain?
Oui, bon, là, ça c'est la première des choses. Évidemment, c'est le blocus d'export d'Ukraine qui a complètement ralenti et déstabilisé le marché national. Donc les gens qui se fournissaient uniquement en Ukraine, mais aujourd'hui se sont rabattus sur tout ce qui pouvait exister, parce qu'il fallait alimenter tout le monde. Donc ça a fait monter un petit peu les tarifs, et puis un petit peu plus aussi lié à la conjoncture et à la récolte, parce qu'on n'a pas eu des récoltes exceptionnelles non plus. Donc le prix monte, sachant que le prix du blé est quand même encore quelque chose de très abordable, mais bon, ça continue à grimper un peu. Alors le fait de n'avoir moins de quantité, ça a affolé un peu tout le monde. Il y a
oui,
une
tout
bourse
ce qui est rare et cher,
voilà, et puis il y a une bourse du grain qui fait que certaines je pense que ça a dû capitaliser de tous les côtés. Et on reçoit au compte-gouttes. Donc les prix grimpent. Alors, ça c'est déjà dans la matière première, mais ensuite, il n'y a rien qui a baissé, que ce soit l'électricité, puisque...
Oui, il y a ça aussi, les boulangers qui utilisent l'électricité,
Paris, oui,
ou le gaz. Parce qu'il y a un bouclier, je précise, il y a un bouclier tarifaire pour les particuliers au niveau de l'augmentation du prix de l'énergie, mais pour les professionnels, il n'y a pas de bouclier tarifaire. C'est-à-dire
exactement.
Que quand l'électricité prend 60% ou le gaz 50%, lui, le professionnel, il paye 50 ou 60% de plus.
Voilà. Alors donc, c'est vrai qu'aujourd'hui donc, nous, on essaye de tenir nos tarifs. Parce qu'on a eu déjà trois augmentations depuis le mois de mai de livraison de céréales.
Plus l'énergie, j'imagine. Et puis les camions pour livrer, en plus.
L'énergie, les camions pour livrer, enfin bon, tout, le papier d'emballage, tout a explosé, quoi. On essaie de contenir, mais on aura une petite augmentation, c'est sûr, au mois d'octobre.
Alors, du coup, comme les boulangers... qui utilisent des farines vertueuses et des farines anciennes et les locales, eux n'ont pas connu les mêmes augmentations de prix, même si ça a un peu augmenté au niveau du blé par rapport au blé que j'appelle les blés Monsanto. Hein.
Ouais.
Du coup, est-ce que ça vaut pas plus le coup d'acheter des pains anciens, hein, les grosses miches de pain qui se gardent une semaine et dont le prix a pas forcément beaucoup augmenté par rapport aux baguettes qui se dessèchent en une demi-journée.
Oui, mais le problème, ça c'est sûr, c'est certain qu'il vaut mieux acheter des très bons pains. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui achètent des baguettes et qui ont les moyens d'acheter du pain pas cher, pas trop cher, puisque le pain est resté une tradition quand même qui est resté un produit pas trop cher. Et d'autre part, il y a encore le système de céréaliers, c'est pas encore mis en marche. Ce sont juste de petites productions et il n'y en aura pas pour tout le monde. De toute façon, les grands blés de grande qualité, aujourd'hui, il n'y en a pas assez.
Ouais, donc effectivement.
Si tout le monde devait se mettre à ne manger uniquement que des grands. On va parler de grands crus comme dans les vins, hein, c'est la même chose. Il y en aurait plus assez pour tout le monde.
Oui, mais c'est pas du tout le même produit. Enfin, les gens sont tellement habitués à consommer de la baguette aujourd'hui que c'est quand même un sacré changement. Hein.
Je connais pas précisément les volumes et les quantités, mais je pense que les gens consomment 80% de baguettes.
Oui, c'est vrai que c'est ce qui parle le plus. Oui. La tradition est en train de prendre le pas sur la baguette ancienne, je dirais.
Oui, déjà, c'est déjà une bonne chose parce que la baguette de tradition, déjà, ce sont des blés sélectionnés. Il y a quand même des gros avantages et nutritionnels et qualitatifs.
Oui, alors justement, en parlant de nutrition, il y a eu toute cette mode des gens qui se disaient intolérants au gluten. Il y a certains médecins et certains spécialistes qui expliquaient que c'était pas une intolérance au gluten, mais une intolérance au blé transgénique qu'on trouve de manière de plus en plus répandue chez les boulangers. Est-ce que tu as déjà des exemples de gens qui se pensaient intolérants au gluten et en mangeant un bon pain avec des bonnes farines, ils se sont aperçus que finalement, le gluten n'était pas leur ennemi?
Alors, l'avantage que l'on a découvert depuis la grande mode du sans gluten, c'est que les pains qui sont fabriqués avec du levain naturel, avec une fermentation très longue de 36 heures, le levain attaque et mange le gluten. Donc, on diminue de larges proportions. Et c'est vrai que tous les gens qui avaient des allergies le supportent beaucoup mieux. Bon, alors les céliaques, pour les céliaques...
Oui, ça c'est autre chose, oui. Ça c'est autre chose.
C'est autre chose.
Mais c'est 1% de la population. Alors que oui. Les restaurateurs disent « Moi, j'ai 30% de ma clientèle qui est intolérante au gluten, ce qui statistiquement n'est pas possible.
» C'est ça. Alors que je connais bien le problème parce que je suis aussi assez fragile du côlon. Et c'est vrai que certains pains blancs ne me réussissent pas du tout. Alors que quand je ne me nourris que de pain de campagne au levain naturel, je n'ai jamais aucun problème.
Ouais, bah justement, pour ce qui est de ton cas, mon conseil, c'est de manger le conseil que je te donne, c'est de manger du pain de Jean-Luc Pigeon.
Ouais. D'ailleurs, Tarek, toi qui es assez sensible du côlon aussi, je pense que tu devrais passer sur le pain de Jean-Luc.
J'ai écouté attentivement ce qu'il a dit. Franchement, ça me donne vraiment envie de. Moi, je suis très très.
Ah, mais faut aller à Hermont. Ou alors, il faut que tu montes un restaurant si tu veux les pains de Jean-Luc.
Je vais aller à Hermont chercher son pain. Je vais goûter et je suis très sensible du côlon.
Alors, c'est quand tu es quel jour et à quelle heure
ça,
à Hermont
Ils ont une vidéo de moi à l'hôpital.
Samedi.
Ça.
Pardon
Samedi matin.
Mon colon.
C'est un marché couvert à Hermont.
Ouais. D'accord. Et quel jour? Parce qu'on n'a pas entendu.
Le samedi matin.
Tous les samedis matins, donc à Hermont, voilà. Sur le marché couvert d'Hermont.
Voilà.
Bon, c'est le seul moyen pour goûter le pain de Jean-Luc Pougeron, à moins d'aller dans un très bon restaurant
sinon,
qui fait son pain.
On a quand même la fromagerie Barthélémy qui est à l'angle du boulevard Raspail et de la rue de Grenelle.
Oui, pas loin de ton labo.
Voilà, qui est un fromager sublime. où on trouve des choses merveilleuses. J'ai aussi quelques revendeurs qui sont des épiciers, tels que l'épicerie fine rue du Champ de Mars, ainsi que un petit revendeur qui est rue Docteur Blanche dans le 16e, qui est un traiteur.
Okay.
À côté du boucher Hugo Desnoyers.
Ben ça, on mettra les adresses sur notre carnet d'adresses sur Internet.
Oui, ça peut
comme
toujours
ça,
intéresser. Ouais, ça peut
absolument.
Toujours intéresser les gens, bien sûr.
Pour les amateurs de bon pain. Merci Jean-Luc Pugeon d'avoir été
Jean-Luc.
Avec nous.
Eh ben, merci à tous de nous faire de belles émissions et de nous faire participer et surtout de nous éclairer avec des vrais professionnels. C'est sympa.
Ben, c'est un honneur de vous avoir. Exactement. Manu, on continue cette émission. On va gagner des kebabs ce matin, des kebabs gourmets qui sont offerts. Il y en a combien ?
1000.
1000 ?
Oui, absolument.
1000 kebabs gourmets offerts. Manu, quand vous vous y mettez, vous ne regardez moi, pas la dépense. Hein.
Voilà, et puis c'est pas n'importe quel kebab, c'est avec du bon pain fait maison, avec des broches faites maison. En fait, c'est les frères des Batignolles. Qui ont un kebab 45. Ah, je vois que
Samy valide.
Notre ami boucher Samy
valide.
Il connaît apparemment les frères des Batignolles dans le 18e à Paris. Alors, ce sont deux frères d'origine turque, hein, Erkan et Oskan, qui ont créé ce kebab frères des Batignolles qui a fait un carton. Et bah du coup, ils n'arrivent plus à fournir avec une seule adresse. Donc, ils ouvrent une deuxième adresse, 8 rue de Clignancourt, à Paris 18e. Et tenez-vous bien, mercredi 14 septembre, vous vous rendez à partir de midi à cette adresse. Vous y allez de la part de Beurre FM. Les 1000 premiers kebabs sont offerts.
Et on recevra bien sûr tous ces gagnants dans AVS sur les maladies cardiovasculaires.
Absolument. Non, parce que
la semaine d'après.
C'est de la bonne viande, c'est du bon pain. Les sauces sont faites maison. On est très, très loin du kebab
du kebab rue de Paris
24.
À Montreuil,
c'est ça, par exemple.
Tu manges de la gazelle et du bison
et du porc.
Ah ouais, c'est
du porc halal.
Mais moi, ce qui me fait rire dans ces restaurants là un peu rapides, la fast food, où ils vendent plein d'hamburgers différents, des fois ils font des viandes, tu sais, c'est des sandwichs avec 5 viandes.
Ah oui, quelle
horreur. Ouais, sandwich 5 viandes,
ou
6 viandes.
Tacos,
moi,
ouais,
franchement, j'en connais 3 sûrs d'animaux. Mais les trois autres, franchement, quand ils disent ouais, sandwich 5 viandes, sûr, j'en connais 3.
C'est des animaux préhistoriques.
Après, ça part, il y a des écailles dessus.
Ouais. Et Tariq, toi, parce que tu as la barbe qui commence à friser peu, je précise aussi que chez Frères des Batignolles, donc le mercredi 14
septembre. Ne dis pas qu'il y a un barbeur dans le kebab.
Si, il y a un barbeur qui sera présent sur place et qui fera la barbe gratuitement pour les clients, pour les premiers clients de Frères des Batignolles.
C'est génial.
Voilà, et c'est vraiment la recette, non pas du kebab, mais du kebab, comme on dit en turc.
Oui, non, si c'est un barbier turc, ils sont incroyables. Hein. Ils ont une qualité de service, les barbiers turcs, qu'on retrouve nulle part. Donc ça vaut le coup.
Et là, ils sont en train de travailler sur la
Font l'épilation des pommettes avec le fil et tout, c'est bien.
Donc si t'as une barbe et t'as envie de manger un kebab, c'est là-bas qu'il faut aller.
Voilà, il y aura plein d'animations, des surprises.
Ça va être génial.
Ce sera festif. Donc avec Tarek.
Disneyland, ce truc.
Avec Tarek, on vous attend là-bas. Parce que nous, on veut être parmi les 1000 premiers.
Ah, grave, je veux un kebab gratuit, une coupe gratuite, manucure, pédicure, massage, finition.
Et avant que ça devienne gratuit, il faut faire rentrer de l'argent dans la caisse, Tarek.
Oui, la pub. Allez, c'est parti.
Dessus de table revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM.
Voilà Manu, c'est les tendances foot de la rentrée. Tarek, tu disais que les bouchers avaient changé quand même aujourd'hui.
Ouais, je trouve que les bouchers aujourd'hui, je parle pour les bouchers halal, hein, ils ont vraiment changé par rapport aux bouchers de mon époque.
Tu les trouves plus beaux gosses?
Ah ouais, bah plus beaux gosses. À l'époque, t'arrivais, le mec il sortait d'une scène de crime, qu'il avait dépecé l'animal à main nue. Non, là c'est rangé, il y a des frigos, il y a des petits produits bio, c'est bien agencé.
C'est des bijouteries maintenant.
Non, maintenant c'est, ouais. C'est bon, bah, le prix va avec hein, aussi, mais je trouve que c'est mieux.
Oui, bien sûr.
Mais c'est vrai que moi ce qui me manque un peu, c'est un peu ce côté un peu roots qu'avant je kiffais quand j'allais avec mon père acheter de la viande.
Ça sentait, tu sais,
l'eau de la Javel, je me souviens.
L'eau de Javel, ça
sentait. Ah ouais, oh, c'était incroyable. C'était incroyable.
Ouais, mais les gens qui achètent de la viande halal. Aujourd'hui, ils vont de plus en plus vers la qualité.
Ouais.
Parce que c'est vrai que dans la communauté, le truc, c'était de dire on va essayer d'avoir de la viande à tous les repas. Donc on n'achetait pas la plus chère. Et donc, on n'achetait pas forcément la meilleure. Hein.
Exactement.
Et est-ce que tu trouves que les marchands des 4 saisons ont changé ou pas du tout ?
C'est quoi les marchands des 4 saisons ?
D'accord.
Merci.
C'est Mina. Ouais.
C'est Mina.
Mina, qui nous a rejoint sur le plateau.
Et les marchands des 4 saisons. Mais c'est quoi les 4 saisons ? Moi, je connais Vivaldi, les 4 saisons, mais après.
C'est... Alors, les 4 saisons, c'est printemps, été, automne, hiver. C'est les fruits et les légumes.
Ah, les maraîchers. Oui, les primaires.
Non, il est plus dans la mode, les 4 saisons de la mode.
Bah,
plus,
là. Ah oui, non, je trouve que même là,
il est fashion week.
Ils se sont améliorés là aussi. Ah si, je trouve que si, il y a vraiment de gros efforts. Si.
Ah voilà, donc on a Mina qui est marchande de primeurs, bio de surcroît, le verger de Vincennes.
Comme j'aime.
Et donc on a parlé, Philippe.
Tu sais que la première fois que je l'ai rencontré, elle m'a dit, tu sais, je suis la rebeu qui fait du bio.
La rebio.
Oui, parce qu'en fait, au début, les gens. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Non, c'est vrai.
Elle me dit, en plus, je suis à Vincennes.
Ouais. La rebio de Vincennes.
Bah non, mais ça faisait bizarre, en fait.
Donc, bah, c'est ça.
Bah, je me suis lancée dans ça il y a maintenant 4 ans et demi. Et franchement, j'en suis fière. Parce qu'on a des super bons produits.
4 ans et demi, dont 2 ans de Covid. Hein.
Ouais.
Ouais.
Mais on était ouvert.
Les petites livraisons à domicile.
Ouais, on a travaillé. Bien, ouais.
Alors, Mina, justement, bon, on parlait durant toute l'émission des raisons, des augmentations de prix sur tout ce qui est marchandises. Alors, c'est vrai qu'il y a, toutes ces raisons s'appliquent aussi aux primeurs, mais en plus, il y a tout ce qui est réchauffement climatique et autres qui impacte
le climat
énormément.
Il joue énormément. Là, par exemple, moi, ce week-end, j'ai pas de chou-fleur parce que les prix sont trop chers. Ça vient de Bretagne. En Bretagne, il a fait très chaud. Les prix sont...
Genre
pour moi, c'est...
Genre quoi, à peu
près? Genre, moi, il faut que je le vende 6-7 euros. Un chou-fleur, c'est énorme. En bio, c'est cher. Enfin, moi, je trouve que c'est hors de prix, donc je préfère ne pas en avoir. Voilà, donc tout le week-end, là, on m'en demande, mais non. Et je leur explique pourquoi, en fait. Après, le client, il est réceptif et il se retourne vers un autre produit. On s'adapte, en fait. On change... Là, on a encore les légumes ratatouille, donc il faut en profiter. Aubergines, courgettes françaises, poivrons français, les tomates, faut y aller.
Attends, elles sont à combien ? Parce que moi, les tomates, c'est ma passion, mais alors cette année, ça a été la folie. Hein. C'est un mois de salaire. Hein.
Ça commence à 4,50. La plus chère des variétés, elle est à 6,95 chez moi.
Oui, alors, en bio. Il faut quand même expliquer aux gens que vous, Mina, vous êtes bio, mais vous avez vraiment des tarifs. Et en plus, vous êtes à Vincennes, qui sont quand même très étudiés. Hein.
Bah, on essaye. On essaye, en fait, on voudrait que le bio soit accessible à tout le monde, à toutes les bourses. Après, il y a des produits sur lesquels on marche peu et on fait kiffer le client, vraiment. La figue, on essaye d'être les moins chers. Les girolles, là, j'ai eu des girolles.
Par exemple, la figue, elle est à combien chez vous ?
Elle est à 12 euros le kilo. Tu vas chez un marchand et elle est bio. La figue de Solliès, elles sont magnifiques.
Alors, en plus, la figue de Solliès, c'est superbe.
Après, si tu vas chez un marchand, des fois, non bio, les mêmes prix, c'est de 19 à 20, 25, 29. Comme les champignons sauvages, c'est pareil aussi.
J'ai vu qu'il y a beaucoup de marchands de primeurs, d'ailleurs, qui commencent à afficher les prix de la figue au 100 grammes.
Au 100 grammes, ouais. C'est ce que j'ai dit à mon mari ce matin.
Ça, c'est incroyable.
Je lui ai dit,
ça,
tu ne te rends pas compte.
C'est mauvais signe, ça, quand tu vois ça.
Ouais, et oui.
Le raisin blanc. Alors,
j'ai dit ça, pareil,
le français est deux fois plus cher que les autres.
Non, pas forcément. Chez moi, il n'est pas cher. Tu as du muscat, tu as du chasselas.
Le muscat, c'est magnifique, ça.
J'ai aussi un raisin fraise. C'est un mélange de raisin et de fraise. En fait, en apparence, c'est du raisin, mais en goût, c'est de la fraise. Ça vient d'Italie. C'est un petit producteur qui a fait des tests comme ça. Puis ça s'est répandu aussi en France. D'Aspé ressemble au muscat. Il est super bon.
Combien ?
Après, il est à 4,50 le kilo. Après, le muscat et le chasselas, c'est 6,50 et on est bio.
Chez Plisson, c'est plus cher, hein, Philippe, hein, je crois.
Ouais, largement.
Manu, s'il vous plaît. L'avocat, vous faites de l'avocat en ce moment ou pas ?
Oui, alors l'avocat...
Vous faites pour l'avocat parce que...
Donc là, actuellement, il vient du Pérou, on a des remarques sur ça, parce que...
C'est pour ça que je vous attaque. Hein,
je sais, donc...
Est-ce que vos clients sont un peu militants, hein, dans tout ce qui est
pas
bio,
tous.
Locavorisme...
Après, le problème, c'est qu'ils veulent de l'avocat toute l'année,
oui,
et on a ceux qui respectent les saisons. Et c'est ça, en fait. Là, j'ai des clients qui préfèrent faire des stocks de tomates pour faire des sauces de sauce tomate toute l'année. Et t'as les clients qui veulent de la tomate italienne ou espagnole.
Oui, alors justement, ça, on parlait des clients qui étaient de plus en plus sensibilisés à l'anti-gaspi. Et c'est vrai que pour ce qui est des fruits, des légumes, on peut faire des confitures, peut faire des conserves de tomates.
Ah oui, là, on réclame des cajous de tomates actuellement.
Avec les légumes, on peut faire des pickles.
Tout à fait.
Comme en ce moment, les fruits et les légumes, surtout chez Mina, sont encore à des prix accessibles, et comme on sait que ça va augmenter de plus en plus...
Bah on essaie de pas impacter l'augmentation. On a gardé notre marge.
Faites des conserves en saison, quoi.
C'est ça.
Non, ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous, pour l'instant, vous n'avez pas répercuté l'augmentation sur les prix.
Bah en fait, j'aimerais bien avoir une affaire viable sur plusieurs années. En fait, j'ai envie de la laisser pour mes enfants. J'ai vraiment envie, et puis j'ai aussi envie que le client kiffe. Je veux pas que ce soit un frein de venir chez moi, en fait. Le prix, faut pas que ce soit un frein.
C'est Mina et fils.
Et oui.
Moi, je crois que Mina, vous allez finir à la Sécu. Hein. Je vais trouver un job, ça va être bien.
Non, vraiment, faut venir au verger de Vincennes. On a les meilleurs fruits et légumes de Paris. On livre même des grandes stars, hein, qui se faisaient livrer par des très grandes maisons. On a par exemple le joueur de foot du PSG, Achraf Hakimi. Et pourtant, il a les moyens d'acheter des super bons produits. Et il a tourné, il m'a dit, mais rapport qualité-prix en bio, t'es la meilleure, il est choqué.
Ouais,
c'est limite, est-ce que je me suis trompé sur les prix? Je lui dis que non.
Les stars du MMA aussi.
Ah oui, on a un contrat avec le MMA Factory. On fait des paniers pour tous les tournois, tous les mois d'Arès. Des paniers de fruits pour les fighters.
Alors, on arrive à la fin de l'émission. Samy, il y a un truc, vous m'avez dit un truc tout à l'heure qui m'a fait peur. C'est que vous allez faire de la rillette.
Oui, tout à fait.
Ça, c'est le summum de la starfoulance, hein, la rillette.
On fait nos tests, on est en plein test en ce moment.
À base de quoi?
Alors, il va y avoir plusieurs sortes de rillettes. Il y aura de la rillette à base de Black Angus. Ça, c'est la première. Et ensuite, la deuxième rillette, c'est de la volaille avec du haut de cuisse de poulet fermier.
Vous savez, Philippe, on fait des très bonnes rillettes avec du confit de canard aussi. Hein.
Ouais, mais compliqué le canard avec la grippe aviaire en ce moment.
Très
compliqué. Donc tout ce qui est volaille va être encore très compliqué pour la fin de l'année.
Mais de la rillette de Black Angus, ça va coûter 6 mois de salaire là.
Non, on va être sur un prix très abordable en prix de vente client. On va être autour de 4,90, 5,90 une rillette de Black Angus.
Top. Franchement top.
Avec du bon pain de Bourgeron.
Et oui.
Ah, oui. Un petit plateau de fruits juste à côté.
Petite salade de pousse de chez Mina.
Oui, la pousse d'épinards, du mesclin.
Oui.
Manu, oui, dites-moi.
Quelques livres, peut-être, Philippe?
Oh non.
Non.
35 secondes, ça ne les fait pas.
35 secondes, non.
Alors, on rappelle les adresses.
On va juste rappeler. Mais non, mais les adresses, vous savez que maintenant, on fait un carnet d'adresses sur mon Instagram, mariani.manuel, ou sur l'Instagram de Philippe, Philippe Robichon. Vous aurez le carnet d'adresses de... Ben si, absolument. Vous aurez le carnet d'adresses avec toutes les adresses citées pendant l'émission. Et puis, il y a Omnivore qui commence aujourd'hui. Donc, qui commence aujourd'hui. Donc, vous pouvez aller à Omnivore. C'est au Parc Floral. Vous allez sur Internet, vous tapez Omnivore. Vous allez tout trouver. Et puis, pour les livres de la rentrée.